La bande passante.
La bande passante.
Laurence Pierre.
Jean-Loup Dabadie est dans la bande passante. Ce soir, c'est un honneur, et cela à l'occasion de cette fameuse journée internationale de la francophonie et de la journée du français dans les médias. Jean-Loup Dabadie, vous êtes un des plus grands auteurs, dialoguistes, romanciers de notre temps, homme de lettres, dramaturge, académicien, immortel. Merci de nous accueillir ici dans cette bibliothèque de l'Académie française pour évoquer 60 ans de carrière. Je sais qu'on n'y arrivera pas parce que 45 minutes, ça passe beaucoup trop vite. Dites-nous dans quel endroit on se trouve ici, parce que franchement, quand on arrive ici, on est en pleine sérénité,
oui,
on est à l'abri des mots du monde, le parquet grince,
on n'est pas à l'abri des mots, on est abrité par les mots.
On est
si vous permettez que vous le disiez.
Bien sûr.
Oui.
Livres qui montent jusqu'au plafond, c'est une espèce de petit boudoir dans lequel vous avez l'habitude de venir vous ressourcer.
C'est le premier endroit. Lorsque j'ai su ce grand honneur qui m'était fait de rejoindre la compagnie, l'Académie française, c'est le premier endroit où je me suis rendu, la bibliothèque, parce que vous savez, au début, vous êtes élu, mais vous n'êtes pas encore reçu. Ça prend un an, le temps de broder le discours et de broder le costume. Mais vous pouvez, vous êtes chez vous, c'est votre maison. Alors vous êtes accueilli, notamment ici, dans cette bibliothèque de l'Institut, qu'on appelle, nous, la bibliothèque de l'Académie, qui officiellement est la bibliothèque de l'Institut, ces millions de pages. Et c'est une chose d'ailleurs dont j'ai parlé, c'est pas pour me citer, mais puisque vous me posez la question, dans mon discours de réception, j'ai dit, je me suis trouvé pour la première fois dans cet endroit où il y a juste de temps en temps un oiseau pour déranger le silence. Et des livres, la montagne toujours recommencé.
Quand remonte, Jean-Loup Dabadie, votre amour pour les mots, pour l'écriture, pour l'envie de raconter? Je sais que vous avez fait des études très poussées, bien sûr, mais vous écrivez votre premier livre, vous avez 18 ans, c'est en 1957, vous n'êtes pas majeur.
Bien avant ça, je suis le fils unique d'un papa et d'une maman qui étaient fous de lecture, qui étaient très cultivés et qui lisaient beaucoup. Mon père écrivait. Et ils étaient, maman surtout, impitoyables par rapport aux fautes de langage, aux fautes de français. Ce sont eux les premiers qui m'ont fait respecter et aimer cette langue. Quand je revenais tout petit de l'école, maman me disait, si je m'étais querellé avec un petit copain, elle me disait, on ne dit pas un espèce d'idiot, on dit une espèce d'idiot. Elle me corrigeait pour tout. C'est elle la première qui m'a appris la règle, notre chère vieille parmi les règles de grammaire, de langage. Mes amis à l'Académie, un jour en séance, m'ont dit attention, parce qu'on avait un mot dans le dictionnaire, un exemple, puisqu'on travaille beaucoup sur notre dictionnaire, inlassablement, un exemple où on disait, par exemple, il quitta la pièce sans qu'il ne la vît partir, etc. Je dis, alors le ne est en trop. Avant que, sans que, jamais de ne. On ne dit pas avant que je ne sois parti ou sans qu'il ne soit prévenu. Enfin, c'était des exemples. Mes parents étaient très vigilants pour ça. Et puis en plus de ça, encore une fois, tout en ne m'interdisant pas les bandes dessinées, ils me mettaient toujours entre les mains, surtout quand j'allais me coucher le soir, ils me mettaient toujours entre les mains des livres. Et après, c'est ce que j'ai essayé de transmettre à mes enfants. Moi, ils avaient ce principe, et je crois beaucoup à ça. Lis ce que tu veux, mais lis. Vous voyez, il n'y avait pas d'élitisme, qu'est-ce que tu fais avec ce Tintin et Milou, avec ce journal, lis le journal, lis des bandes dessinées, lis des livres, lis, mais n'arrête pas de lire. Et du coup, c'est une addiction qui m'est venue de longtemps, et plus vous lisez, plus vous apprenez, et éventuellement vous aimez la langue.
Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires. Mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment. Une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir. Ne t'en va pas. Ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre, seul. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir, il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver. Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois. Je n'ai plus de mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires. Mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimèrent et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non. Ne pleure pas.
Jean-Loup Dabadie, parlons de cette première chanson interprétée par Serge Reggiani, qui est un grand acteur. Il a déjà plus de 40 ans, je crois. Il a chanté Boris Vian et il a envie de se lancer dans une carrière de chanteur. Oui. Est-ce que vous vous rappelez, je crois que Barbara avait le béguin pour lui, elle était un peu derrière l'affaire, est-ce que vous vous rappelez de cette première chanson qui s'appelle donc « Mon petit garçon » écrite pour Serge Reggiani?
Je me rappelle très bien cette première chanson et je me rappelle très bien les conditions dans lesquelles elle m'a été demandée. J'avais écrit une chanson pour Barbara qui s'appelait « Marie Chenevance » qu'elle a enregistrée. C'est malheureusement pour moi la seule chanson que j'ai écrite pour elle, parce qu'elle, après, elle s'est chargée de ses propres paroles. Et Barbara prend Serge sous son aile quand ce grand acteur, comme vous dites très justement, de théâtre et de cinéma, cet acteur sartrien, décide de chanter au-delà d'un disque de Chic qu'il avait fait, d'un album qu'il avait enregistré de chansons de Boris Vian. Il décide de se lancer dans la chanson. Alors, Barbara lui dit, il y a un petit jeune là, enfin elle lui donne mon numéro de téléphone, j'habitais Meudon, et un jour je reçois un coup de téléphone, bonjour, c'est Serge Reggiani. Bon, comme je suis d'une nature blagueuse et que j'ai plein de copains, dont moi, si j'ose dire, qui font des blagues au téléphone, qui imitent des voix, qui etc. Je dis, très bien, soyez le bienvenu, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit, je voudrais que vous m'écriviez une chanson, etc. Puis, très vite, je comprends que c'est le vrai Serge. Et je lui dis, mais monsieur, je suis très honoré, mais moi, vous savez, j'ai écrit de romans, j'ai écrit une pièce de théâtre.
Vous avez fait du journalisme.
Oui, puis j'avais écrit une pièce de théâtre qui avait été créée par Pierre Brasseur, le père de Claude, le grand Pierre Brasseur, et Françoise Roset, au Théâtre de Paris. Malheureusement, presque totalement à l'abri du succès. ce qui m'avait angoissé, jeune que j'étais, en me disant, oh là là, si le théâtre, on commence par être joué. Pourtant, j'avais été joué 100 fois, mais à l'époque, c'était pas beaucoup. Aujourd'hui, ça serait pas mal. Mais bref, Serge avait lu cette pièce. Un rôle lui avait été proposé. Comme c'était un homme très délicat et très courtois, il avait prétexté je ne sais quel tournage de film pour dire qu'il n'était pas libre. À mon avis, il n'aimait pas son rôle. Il ne l'a jamais dit. Mais il avait repéré une écriture qui lui plaisait. Et quand je lui dis « mais je ne sais pas écrire de chansons », Serge Reggiani me dit « mais c'est pour ça que je viens à vous ». Parce que j'ai décidé de m'essayer à chanter des chansons d'aujourd'hui, écrites par des auteurs d'aujourd'hui, et il me disait je ne vais pas faire mon marché chez Gilbert Bécaud, qui avait à ce moment-là les trois plus grands paroliers français, qui étaient Pierre Delanoë, Louis Amade, le préfet, comme on l'appelait, parce qu'il était préfet, un poète très fin, et ce merveilleux auteur dont on n'a jamais assez parlé, qui s'appelait Maurice Vidalin, qui avait écrit des chansons formidables pour Colette Renard, pour Serge et pour Gilbert, évidemment.
Est-ce que vous avez le trac à ce moment-là, Jean-Loup Dabadie, parce qu'on n'écrit pas une chanson de 3 minutes comme on écrit une pièce de théâtre ou un roman.
D'autant plus, ma chère amie, que Serge me dit, alors je lui dis c'est une bonne nouvelle, il me dit c'est une bonne nouvelle, mais il y en a une moins bonne que je suis obligé de vous communiquer immédiatement, c'est que nous sommes vendredi et il me faut la chanson pour lundi soir. Parce que mardi, je répète avec les musiciens, et la première est mercredi. Donc il faudrait que vous écriviez vos paroles, qu'on trouve quelqu'un pour écrire la musique, qu'il ne dit pas, parce qu'il était très élégant, que la chanson me plaise, et si tout va bien, me dit-il, je répète avec les musiciens dans l'après-midi de mardi, et je la chante en direct le mercredi. Donc j'ai très peu de temps pour écrire cette chanson, je ne sais pas écrire de chanson, j'en écoute beaucoup, j'en aime beaucoup. Mon père en écrivait. Il écrivait pas assez, malheureusement, mais il écrivait pour les frères Jacques, pour Maurice Chevalier, pour de sa génération. Donc je savais comment les autres faisaient, mais moi, je ne savais pas faire. Et c'est pour ça que donc Serge m'a dit, c'est pour ça que je m'adresse à vous, parce que je voudrais des auteurs neufs et non pas aller chez les auteurs célèbres, les grands professionnels. Et instinctivement, sans malice, je me suis dirigé vers une idée de scénario.
J'avais pour tout bagage des mots et des images, pour moi chaque visage était un nouveau paysage. Je serai donc toujours étranger partout, ou bien serai-je chez moi un jour, même où. Mais je reviens de l'avenir, j'ai tellement de choses à dire, oh, tellement de souvenirs, et j'ai oublié le pire, mais j'ai le meilleur à vous dire, oh, oh. Ma vie est une histoire à suivre. Oh, 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 oh.
Jamais un de mes chanteurs, comme je dirais mes enfants, mes frères, mes parents, mes cousins, jamais, jamais. Toujours j'ai eu des chanteurs, même parmi les plus jeunes, après Serge, Michel Polnareff, Julien Clerc, Michel Sardou, d'autres. C'est d'ailleurs pas toujours facile pour moi. Ou bien ils me donnent une musique et ben, cherche, vois ce que tu vois, et puis tu m'appelles quand tu crois avoir une idée, c'est ce que je fais. Ou bien, ils me donnent même pas de musique, mais ils me disent, il me faut une chanson, il me faut 3 chansons, il me faut 2 chansons, parce que j'enregistre à partir de telle époque. C'est une liberté que j'apprécie, bien entendu, mais qui est quelquefois très verglacé, parce que le jour où vous présentez votre chanson à votre interprète, qui vous l'a demandé, il peut très bien ne pas l'aimer.
Il peut la refuser.
Oui, il peut très bien la refuser, évidemment. Et ça, moi, je ne discute jamais avec un interprète, et d'ailleurs au théâtre c'est pareil, ou au cinéma c'est pareil, un interprète qui ne veut pas l'ensemble d'une œuvre, même si vous avez passé des centaines d'heures, c'est un autre problème, c'est votre problème, qui refuse une œuvre, ou qui refuse un rôle, ou qui refuse une réplique, et dans la chanson, qui peut refuser un mot, qui peut refuser une syllabe. Ça m'est arrivé, j'ai plein d'exemples comme ça. Je ne discute jamais avec les artistes, je n'essaie jamais de passer en force. J'ai pas mal de camarades qui sont auteurs, pas mal, enfin un certain nombre, et qui eux essaient de convaincre, mais écoute, tu t'en rends pas compte, s'il dit ça, il faut qu'il dise ça, ou qu'il chante ça, parce que sans ça...
Vous passez à autre chose.
Non, c'est parce que je pense profondément que un artiste a toujours raison, même quand il a tort. Parce que...
C'est un très bel hommage.
Et oui, mais je le pense de tout mon cœur, parce que justement, au fond de son cœur, il ne faut pas, en plus de ça, lui infliger une double peine et l'obliger à s'expliquer. Parce qu'il n'en est pas toujours capable. Il n'en a pas toujours envie, il n'en est pas toujours capable.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais, je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça je le sais.
La bande passante, Laurence Pierre.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude.
Jean-Loup Dabadi, parmi vos enfants dont vous parlez, vos interprètes, vous l'avez évoqué, il y a Julien Clerc, bien sûr. C'est une collaboration incroyable. Est-ce que c'est une histoire d'amitié?
Oui.
Qui a débuté à la fin des années 70. Mmh. On connaît Ma préférence, Femme, je vous aime, Partir. Vous lui avez écrit une bonne trentaine de chansons, je pense.
Non, non.
Peut-être plus.
32.
32.
Oui, c'est beaucoup, vous savez.
Oui, c'est beaucoup.
Oui. Oui. C'est-à-dire que moi, quand... quand on me demande, je sais, j'ai pas toujours des réponses exactes, parce que je comptabilise pas vraiment, je compte pas combien de films, combien de pièces de théâtre, combien, etc. Mais s'il faut faire l'effort, je m'aperçois que je suis l'auteur de théâtre, je parle des auteurs vivants, qui a écrit le moins de pièces, l'auteur de films qui écrit le moins de films, on me parle toujours très, très gentiment de tous les films que j'ai écrits avec les différents metteurs en scène et que je continue à écrire, mais c'est moi qui en ai écrit le moins par rapport à mes camarades, les gens, les auteurs vivants de ma génération ou même des autres générations. C'est moi qui ai écrit le moins de pièces de théâtre. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais pu me spécialiser dans une discipline ou dans une autre, parce que je suis pris d'ennui.
On a l'impression que vos collaborations, Jean-Loup Dabadi, vont de pair avec une amitié.
Oui.
Pour vos interprètes.
Ah,
ça
oui.
Ne pourrait pas exister sans ça. Vous ne fonctionnez pas à la commande. C'est souvent une relation que vous avez avec ces personnes sur le temps qui dure très longtemps.
Quand
comme avec
m'est...
Julien Clerc.
Oui.
Comme avec les réalisateurs aussi,
oui,
Claude Sautet, mais, Yves Robert, oui. Ça c'est important pour
en
vous.
En fait, quand il m'est arrivé d'écrire des chansons, comme vous dites, à la commande, ça n'a jamais marché.
Mmh.
Elles n'ont jamais marché. Parce que, sans doute, comme je suis profondément, comment dire, affectif, sentimental, j'ai besoin qu'on soit tricoté l'un dans l'autre, pas forcément par une amitié de garçon ou une amitié garçon-fille qui va vers l'intimité, pas forcément l'intimité, mais une amitié d'artiste. Moi, Julien, par exemple, vous me parliez de Julien Clerc, Julien, je l'aimais avant de le connaître. J'aimais profondément son
vous
style.
Vous étiez fan et vous collectionnez
oui.
Déjà ses disques avant
moi,
de le rencontrer.
Je collectionnais pas. Je l'écoutais, j'achetais ses albums et j'aimais les chansons qu'il chantait, généralement de Rhoda Gil, quelquefois aussi de Maurice Vallet. J'aimais sa voix, j'aimais son vibrato, j'aimais sa voix qui s'en va follement. C'est un grand chanteur, un grand compositeur et un grand chanteur, Julien Clerc. Grand compositeur, c'est pas la question, mais vous ne trouverez jamais, je vous mets au défi de trouver une musique de chansons de Julien Clerc qui ne soit pas une musique, une mélodie rare, qui ne soit pas une mélodie exceptionnelle, dans des genres très différents. Alors j'ai besoin de ça. Serge Reggiani, je montais chez lui à Grasse, il avait une maison du côté de Mougins, où il y avait sa mère à ce moment-là, qui nous faisait les pâtes, comme Lino au cinéma, les mêmes, pareil, ils faisaient les pâtes dans leur cuisine. Et puis je restais là, puis j'apportais mon texte, où je repartais, j'avais passé ce moment... là, sans étudier, sans spécialement mon interprète, mon ami, mais quand après je cherchais pour lui, je le ressentais. D'abord, j'entends les voix de mes interprètes, mais je vois aussi leurs regards, je vois leur façon de baisser la tête, de baisser les yeux, je vois leur silence, leurs hésitations. Et quelquefois, bon, ben, ça n'est pas secret, je connais leurs souffrances, comme ils connaissent les miennes, Je sais leur façon d'aimer ou, comme disait Simone Signoret, de désaimer telle ou telle personne ou telle idée. Et de ce mélange, ça me fait une palette sur laquelle je cherche mes couleurs et très souvent d'où me viennent les idées. Quelquefois, les idées, si on parle toujours de chansons, donc, sont des idées que je me risque à leur imposer. Par exemple, l'assassin assassiné pour Julien ou Lettre à France pour Michel Polnareff.
Chacun son tour, ça n'est pas drôle. On lui donne deux, trois paroles et un peu d'alcool. On lui parle, on l'attache, on le cache dans la cour. Un grand noir protège sa mort des regards. Et puis ensuite, ça va très vite, le temps que l'on vous décapite. Si je demande qu'on me permette à la place d'une chanson d'amour, peut-être de vous chanter un silence, c'est que ce souvenir me hante. Lorsque le couteau est tombé, le crime a changé de côté. Si j'y ce soir dans ma mémoire, un assassin assassiné, assassiné, assassiné.
Et on parlait de l'assassin assassiné.
Et l'assassin
pour
assassiné,
Julien Clerc,
voilà.
Il faut qu'on en dise un mot,
oui,
Jean-Louis Dabadie, puisque c'est un plaidoyer contre la peine de mort. On est en 1979. Julien Clerc va l'interpréter pour la première fois à la télévision dans une émission de Guy Lux qui a pris un drôle d'air tout d'un coup. Julien Clerc qui va l'enregistrer l'année suivante, 1980, sur son album Sans Entracte. Rétablissez la vérité,
bon.
Allez-y.
C'est pas grave, mais c'est touchant pour Julien et moi. Pour aller vite, moi j'aime bien voir mes interprètes en dehors des moments où ils ont besoin de moi ou moi d'eux. Alors donc Julien, on joue au tennis ensemble ou comme avec les autres on déjeune ou on dîne ensemble pour parler l'amour, les femmes, la coiffure, tout ce qui nous intéresse et du sport. Julien il adore le sport et il en fait beaucoup. Et puis on allait en ce moment il vit à Londres, mais on allait beaucoup au stade ensemble, au foot ou au rugby. Et puis un jour, on discute le coup et on en vient à la peine de mort. Et il venait de sortir un sondage tragique du genre 64% des Français sont pour le maintien de la peine de mort, etc. Et Julien avait été invité par Robert Badinter à aller voir un procès à Toulouse. C'était le fameux procès Bontemps et... On en parle tous les deux et on s'aperçoit très vite que l'un et l'autre, nous étions pour l'abolition,
oui.
Donc contre la peine de mort. Et je dis à Julien, qui n'a jamais été un chanteur engagé, et moi pas spécialement un auteur engagé, bien que j'ai mes idées et mes opinions et qu'en privé j'en discute passionnément, je dis à Julien, et si on faisait une chanson? Alors, sur le moment, il est un peu estomaqué, il me dit, ah non, attends, Michel Sardou vient de faire Je suis pour,
oui.
Si moi tu me fais chanter une chanson dans laquelle je suis contre la peine de mort, ça va être le match Julien Clerc, on va se retrouver à la une du journal de Claude François, podium, le match Julien Clerc, Michel Sardou, combien ça, lui il est pour, lui il est contre, etc. Il est un peu effaré. Mais il me dit, écris toujours. C'est toujours ce que me disent mes interprètes. Va te mouiller, mon Jean-Loup. Et donc, j'écris ma chanson. Et je viens la lui porter. Je me rappelle, il promenait sa chienne dans les bois du Ranelagh un matin froid d'hiver. Ça. Et puis, il la met, il la plie en quatre dans sa poche. Et le jour même, à 2h de l'après-midi, il m'appelle, nous étions presque voisins, « Est-ce que tu veux venir écouter ?» Alors je fonce chez lui, il se met au piano, et puis c'est comme il fait toujours, ses mains au bout de ses genoux, là, et puis 3, 4, il me chante, alors j'oublierai jamais cette émotion, il me chante la chanson avec cette musique admirable qu'il a écrite, admirable, déchirante. À la fin, les larmes me coulent des yeux, je me dis, mais mon Dieu, je lui dis, écoute, je peux pas te dire, comme c'est beau, c'est bouleversant, c'est magnifique ce que tu as fait, comme tu le chantes, avec sa voix extraordinaire. Et après ça, il ne l'a pas chanté, parce que il ne voulait pas justement entrer dans cette compétition, et il était, moi je l'étais un peu aussi, retenu, pour pas dire complexé, à l'idée qu'on pourrait dire, toujours on pourrait dire, voilà, ils font des droits d'auteur sur un sujet aussi grave que ça. Bon, ça se discutait, mais...
Mais c'est en ça que je dis que c'est dans l'air du temps aussi, puisque la peine de mort va être abolie juste après l'élection de François Mitterrand en 1981.
Et moi, j'ai une idée, je lui dis, écoute, on était à la maison, je lui ai dit, mais pas tout de suite, au bout d'un certain temps, quand il ne la chantait pas, je lui ai dit, écoute, on va téléphoner à Robert Badinter, et puis si on tombe sur lui, je vais lui lire la chanson, puis il va nous donner son avis, il va dire s'il trouve ça de bon goût, pas de bon goût, c'est opportun, inopportun, etc. J'avais le téléphone de Badinter, et je lui lis, pas avec la musique, je lui lis la chanson. À la fin de la chanson, Julien avait, à cette époque-là, l'écouteur, je l'ai prévenu Badinter, il dit, il faut absolument que Julien la chante, absolument, absolument, absolument. Julien, ému par ça, ne la chante toujours pas, il n'y arrive pas. Et un jour, c'est là qu'on n'est pas avec Guy Lux, il y avait une émission sur France 3, il s'appelait l'invité du dimanche. C'était un petit grand échiquier. Et je suis invité un dimanche. Qui voulez-vous comme invité? Alors, viennent mes amis Serge Reggiani, Guy Bedos. Et, quelques diables me poussant, je téléphone à Julien avant en disant, mon Julien, quelle honte, je suis passé par Nietzsche pour lui faire chanter ma chanson. Je dis, mon Julien, je dois te dire une chose. Nietzsche a dit, l'œuvre non publiée n'existe pas. Alors, est-ce que tu veux me faire l'immense honneur, je sais quel sacrifice pour toi ça représente, enfin quelle émotion pour toi, et à cette émission en direct que je fais dimanche prochain, est-ce que tu veux venir chanter L'Assassin Assassiné? Tu ne la chanteras pas après, tu l'auras chanté une fois. Tu te mets au piano, tu l'auras chanté une fois. Et il dit, je viens. Il chante la chanson, et là, vous savez, vous vous rappelez, non, vous êtes trop petite, c'était l'époque où, à certains moments, les gens qui animaient une émission disaient au public, arrêtez de téléphoner, le standard est bloqué.
Oui.
Et ça a été le cas dans les 3 minutes après. Et le lendemain, il chantait à Nice, Julien, qui est une ville où vraiment les abolitionnistes n'étaient pas en majorité, et il me téléphone le soir en disant, Jean-Loup, je viens de chanter la chanson en rappel. Je me suis lancé et les gens étaient debout.
Bonne fête, Paulette, et je lui donnerai mon bouquet. Elle a horreur des fleurs. C'est justement, je déteste ma femme. Alors je vois pas pourquoi je lui aurais offert des chocolats. Paulette adore les chocolats. Et moi, j'aime pas Paulette. Alors, soyons logiques. J'avais pourtant bien précisé à ma mère. Je lui ai dit, je veux pas épouser Paulette. Elle m'a répondu, on parle pas à table. Bon, mon père non plus, il est pas foufou de ma mère, mais lui, 30 ans de mariage, il a fait le plus gros. Et puis elle est moche, Paulette. Le jour où je regarde ses jambes, je lui dis, t'as tes bas qui plissent. Vlan, elle me retourne une claque, elle avait pas de bas. J'ai dit à ma mère, Paulette est moche. Elle me répond, Paulette me ressemble. Je dis, oui, mais toi, tu es ma mère. Elle me répond, Paulette pourrait être ta mère. Bon, n'empêche que si je m'écoutais, il y a des soirs, je la zigouillerais. C'est vrai, je suis là, je rigole, mais je la zigouillerais. Je la couperais en petits morceaux et on ne retrouverait jamais son cadavre. Seulement, ça serait dans le journal, avec sa photo. Alors écoutez, le seul plaisir de ma journée, c'est de prendre mon petit crème, le matin, tranquille, à la terrasse de chez Lulu, en lisant mon petit journal. Alors si c'est pour retrouver la photo de Paulette en première page, alors non, écoutez, non. Bonne fête, Paulette.
Il m'a laissé le cigarette et le disque des feuilles mortes. Jolie lettre fanée, 4 francs pour faire la fête. Ensuite il a fermé.
dérangez pas pour moi, les enfants. Jouez, jouez. Jouez, Bouli. J'ai rien qu'une chose à dire à Simon, alors. Simon, ici.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as sorti les fourrures?
Je m'en vais. Tu sais ce qu'il m'a dit cette nuit? Et en plus, il m'a réveillé pour me le dire. Devine. Je te souffre pas.
Mais je sais pas, mais tu vas pas me raconter ça là maintenant, non?
Mais où est-ce que je peux te le raconter, alors? Ce matin, je me suis présenté chez toi, et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet.
Qui, Madame Paquet? Mais c'est normal, j'étais avec Monsieur Simoni.
Ah bon, c'est normal? C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère elle est au bord du gaz.
Maman.
En plus, il a rien du tout, celui-là, c'est un comédien.
Il a rien du tout? Tu veux voir ses radios?
Il a rien du tout. Demande à Madame Paquet. Seulement lui, forcément, il te paye, alors tu le reçois avec des sourires. Mais si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas. Combien je te dois?
Arrête!
Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein! Parce que ce sont comme ta propre mère! Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais!
Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maman est brute!
Au revoir, Étienne! Au revoir ou adieu! Adieu, Bouli! Je n'ai même pas demandé les nouvelles!
Mais où tu vas? Où est-ce pas?
T'inquiète pas, je te laisse pas mon adresse! Comme ça, tu économiseras le timbre!
Arrête!
Jean-Loup Dabadie, vous avez évoqué Guy Bedos. Ce qui est fabuleux chez vous, c'est la façon dont vous pouvez passer du rire aux larmes ou des larmes au rire, en l'occurrence, passer de l'assassin assassiné à Bonne Fête Paulette.
Comme on est dans la vie.
Ouais. On peut citer Les choses de la vie, on peut citer César et Rosalie, Un éléphant ça trompe énormément.
Oui, mon préféré, je veux dire, mon préféré, comme on parle de sa famille, encore une fois, ou de son jardin, c'est Vincent-François Paul et les autres. C'est celui qui m'a donné le plus de travail. C'est un film très gai. Mais Pascal Jardin, qui est un grand auteur, il disait une chose très amusante. Il disait, je vais vous résumer l'œuvre de Jean-Loup Dabadie. Alors, vous prenez tous les films que Jean-Loup écrit pour Claude Sautet, vous les mettez dans un shaker, vous secouez, et puis vous les reversez le shaker, et vous trouvez le versant comique, c'est les mêmes, pas les mêmes, c'est les films qu'il écrit pour Yves Robert, ou Claude
Pinoteau. D'un côté le mélo, et de l'autre côté l'humour.
Ce qui fait que Michel Piccoli a inventé pour moi ce mot qui me faisait grand honneur, et que je trouve très très doux, très bien dit, il a dit Jean-Loup c'est un auteur mélancomique, et ça me va.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus.
Parce que sans doute, toi, tu crois que tu me fais peur, hein? Tu parles mal. Tu travailles mal, tu danses mal, tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle.
Je vis mal, mais c'était le départ.
Ah oui, pardon, j'oubliais, oui. Et c'est sans doute pour ça que t'as failli coucher dehors la veille de l'examen, pour vivre autrement, hein, c'est ça?
Pas autrement, autre chose!
Et avec quoi? Avec lui, là, qui peut pas mettre un mot devant l'autre et qui tombe de son vélo dès qu'on lui parle, hein, c'est ça? Pour toi, un homme, c'est ça?
Mais je veux pas un homme, j'ai jamais dit ça! Je m'en fous d'un homme! Je veux un garçon! Et puis lui, j'espère qu'à la cinquantaine, il se retrouvera pas sur le carreau, hein! Parce que toi, toi aussi, t'en es tombé de vélo avec tous tes diplômes!
Qu'est-ce qui t'a dit ça?
Oh, tout le monde le sait! Tout le monde en parle! Alors, arrête de me faire rire, hein! Parce que je l'aime!
J'aimais quand nous vivions comme dans un dessin d'enfant. Tu ne m'aimes.
Franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi, je suis beau dans mon genre. Et puis la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
Ça ne veut rien dire.
Nous sommes d'accord. Alors, intelligent? C'est pas Marcel Proust, excuse-moi.
Je t'excuse. J'aime cet endroit.
Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue, si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent.
Très chic. Refais ce geste.
Pas faire un peu de beurre, là, s'il vous plaît.
Voilà, monsieur.
Bon. De toute façon, je ne saurai jamais la vérité, alors.
Mais César, la vérité, tu la sais, tu la vois. On est ensemble. Si je voulais être avec lui, j'y serais, je suis libre.
Tu ne vas pas me dire que là, tu ne penses pas à lui.
Ce serait difficile, tu m'en parles sans arrêt. Puis oui, je pense à lui. Je ne sais pas s'il est beau, s'il est... Je m'en fous. Toi, je ne sais pas pourquoi je t'aime.
Oui, mais tu m'aimes.
Oui. Oui.
On dirait que ça ne t'arrange pas.
Non.
Pour refermer cette journée passée ici à l'Académie française, Jean-Loup Dabadie, si on devait, si vous deviez choisir une chanson parmi toutes celles que vous avez écrites, ou pas d'ailleurs, pas forcément.
Non, quand on me pose cette question, je vous remercie de me la poser, je ne choisis jamais dans mes chansons. Pour les chansons des autres, avant de dire celles que j'aimerais entendre, je dirais « J'ai failli vous dire, est-ce ainsi que les hommes vivent ?» J'ai failli vous dire une chanson absolument magnifique, qui est un vrai bijou, « Le baiser » d'Alain Souchon. C'est la chanson que j'aurais aimé écrire. Vraiment. D'autres, quand je vous dis « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?», je ne peux pas vous dire, parce que ce n'est pas du tout ce style aragonais magnifique. Ce n'est pas, c'est pas un style que j'ai jamais pu approcher dans mes efforts. Mais « Le baiser », les paroles, la musique, l'idée, le bout du pinceau pour désigner une silhouette au bout d'une jetée, avec la tête comme un point. Pour moi, c'est la perfection. Bon, j'aurais pu vous dire « Avec le temps », qui est difficile d'écouter sans être en larmes, pour moi. Et finalement, je vais revenir, pas du tout égocentriquement, mais parce que déjà du temps de mes parents, c'est une chanson qu'on écoutait, c'est « L'âme des poètes » de Charles Trenet. Voilà. Avec ce passage extraordinaire qui est tellement vrai, et quand ils sont à court d'idées, ils font « la 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 ». C'est tout notre travail d'auteur de chansons.
Un dernier mot, Jean-Loup Dabadie, sur quoi, sur qui écrivez-vous en ce moment ?
Je viens d'écrire une pièce de théâtre qui s'appelle « Le Prix », mais comme on dit, je ne voudrais pas en parler tant que...
Tant que c'est pas fini.
Non, si, elle est finie, si. Mais ce qui sera fini, c'est surtout qu'elle soit montée. Là, elle est en lecture, j'ai fini il y a 4 jours. J'ai un sketch que m'a commandé Laurent Gérard, et comme j'ai mon idée, je vais lui écrire son sketch, je vais écrire ce sketch. Là, c'est un peu, vous savez, c'est comme lorsque vous travaillez sur quelque chose de sérieux, vous allez faire un tour dans le jardin. Pour moi, les sketchs et les chansons, je les ai écrites toutes comme si j'allais jardiner un peu pour prendre l'air, ça me détend. Bien que ça soit, je parle surtout des chansons, un immense travail, c'est peut-être le plus dur. Mais enfin... La grâce, c'est que vous êtes délivré plus tôt. Mais c'est autant de douleur. Mais comme disait Oscar Wilde, l'angoisse est insupportable pourvu que ça dure.
Merci beaucoup, Jean-Loup Dabadie, de nous avoir reçus ici à l'Académie française pour cette journée de la francophonie.
Il faudrait qu'on en fasse d'autres. Parce qu'on
Il faudrait qu'on en fasse d'autres. C'est passionnant, c'est généreux, c'est enthousiaste.
Ouais, je vous en prie.
Merci mille fois. Dans ce décor magnifique au milieu de tous ces livres qui montent jusqu'au plafond, oui, et à l'abri des tourments
de des livres, la montagne toujours recommencer.
Merci,
au revoir.
Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. La, 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 la. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. c'est leur chanson qui rendent gay, qui rendent triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.